Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un sujet que je nommerais préoccupation-évaluation. Et j'ouvre la Bible dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16. Romains chapitre 16, les versets 17 à 20. Romains chapitre 16, les versets 17 à 20, que je lis. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ et notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. » Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Préoccupation. Moi, je prends certains médicaments et sur un de ces médicaments, il y a marqué dans les effets secondaires, tenez-vous bien, hypotension orthostatique. Terrible ça, non? Non, c'est pas si grave que ça. C'est une baisse de la pression artérielle au moment du passage d'une position assise ou allongée à une position debout. Pas grave ça, non? Vous êtes couché, vous vous levez en un saut, et puis vous avez un peu comme ça, ça va. Pas de souci, vous tenez encore debout, ça va bien. Mais, j'ai réalisé que cet effet secondaire, je le connais quelquefois dans ma vie spirituelle. Par terre, je vais vite me relever, et il y a quelque chose qui... La tension ne suit pas, il y a un truc, quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui ne va pas. Et je fais un constat que le disciple de Jésus qui désire se relever pour agir se demande ce qui le freine. Pourquoi il éprouve un manque d'assurance, une faiblesse dans la décision qu'il faut prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a coupé chez le disciple sa résolution, son enthousiasme? Et la question que je me pose, est-ce que l'évangile, il a perdu sa valeur, son tranchant au fond de mon cœur? Je me rappelle avant-hier, à l'âge de 19 ans et demi. Non, mais rigolez pas, je suis pas si vieux que ça. J'avais l'impression qu'ayant reçu le Christ, tous ceux qui vont entendre mon témoignage seront bouleversés et vont tous se jeter à genoux et recevoir Christ comme sauveur. Et ça s'est pas passé comme ça. Et je me demande si quelque chose s'est passé après ces quelques années, ou en fin de compte, j'ai plus de peine à me relever pour aller au témoignage et à l'action. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que ce feu, qu'on aurait pu nommer de la superficialité, de l'enthousiasme du moment, enfin on peut le nommer n'importe comment, mais pour que ce feu qui était quand même là, à cause de l'amour de Dieu reçu, à cause de la réalité du pardon des péchés, reçu de la paix dans le cœur, acquise de la consolation jour et nuit reçue par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé, Dani, dans ton cœur pour que quand tu te lèves maintenant vite fait, tu as des malaises? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet épître de Paul aux Romains, que vous connaissez certainement, je la survole rapidement. Nous savons que dans les chapitres 1er et 2e, l'apôtre Paul décrit à cette église, il écrit à cette église qu'il n'a jamais visitée, il écrit à cette église que le grand problème de l'humanité, c'est de ne plus avoir reconnu le Dieu créateur, d'avoir pas écouté la conscience, et en fin de compte, d'avoir voulu vivre sans Dieu. Et ce Dieu d'amour, comme l'être humain le rejette, ce Dieu d'amour laisse aller l'être humain à sa dérive. Ce sont les chapitres 1 et 2 dans l'épître aux Romains. Mais Dieu prépare le Sauveur. Et il continue chapitre 3 et 4 à montrer Christ, le Sauveur, qui est venu pour transformer la vie, pour changer l'humanité, pour donner un sens à notre vie, pour pardonner nos péchés, pour que nous ayons de nouveau la communion, le contact avec le Dieu d'éternité. Dans les chapitres 5 et 6, il nous remontre encore l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, c'est Jésus le Sauveur et c'est Jésus qui est suffisant pour le salut et pour la sanctification, pour le progrès spirituel. C'est la relation avec le Christ qui est suffisante. Dans le chapitre 7, l'apôtre Paul montre qu'il y a une bataille entre ce qui est sa nature ancienne, qui doit mourir et qui est juridiquement morte par la crucifixion de Jésus, mais qui est de facto encore vivante aussi longtemps qu'il est dans son corps. Dans cette bataille dans laquelle il se trouve, chapitre 7, il dit, mais misérable que je suis, qui est-ce qui m'aidera à faire le bien que je veux faire et à refuser le mal que je veux refuser? Et il dit, mais grâce soit rendue à Dieu au travers du Sauveur. Et à cause de Jésus, chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Chapitre 9 à 11, l'apôtre Paul déroule l'histoire sur une vision sur ce lien entre le peuple d'Israël et l'Église. Ce salut que Dieu donne aux nations et qu'il donne à Israël. Et chapitre 12, l'apôtre Paul rentre dans la vie tout à fait pratique. Si vous lisez le chapitre 12, lisez s'il vous plaît une petite phrase par jour. Ça suffit. Priez toujours. Pratiquez l'hospitalité. Servez le Seigneur. Faites des phrases comme ça, Romains 12. Une phrase par jour et application, ça suffit. Ça transforme tout. Chapitre 13, il nous dit, il faut respecter les autorités qui sont dans notre pays parce qu'elles sont placées par Dieu. Chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit que nous avons à nous accueillir, pas à discuter des opinions. On peut être différent. Un, il mange de ça, de la salade, et l'autre, il n'aime pas la salade. N'en faisons pas une salade. Hein? Mais en tout cas, sachant que celui qui appartient au Seigneur, il est serviteur du Seigneur. Il appartient au Seigneur. Et le Seigneur le portera. Chapitre 15, il dit, accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Il parle de l'accueil, de l'ouverture du cœur, de la réception dans mon cœur des autres et de la diversité des autres qui peut pénétrer dans mon cœur sans qu'il a besoin d'une réaction contre eux et contre leur vie. Quel amour que Dieu met dans les cœurs. Et Romains 16, et voilà, je suis dans mon texte, et Romains 16, où je suis, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu as fait là, l'apôtre Paul? Tu encourages les croyants à l'accueil, au respect des convictions personnelles de l'autre, excellent, chapitre 15, et puis chapitre 16, tu fais des mouvements opposés, accueillez-vous, et puis éloignez-vous d'eux. Oh, accueillir, s'éloigner. Donc il y a des avertissements dans ce texte, des avertissements qui sont certainement essentiels pour nous. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ah, c'est difficile ça. Et il s'agit de quoi? Il y aurait donc des personnes qui essayent de nous faire avaler un poison et très souvent le faire avaler par dose infinitésimale, imperceptible, qui nous donne un réel malaise lorsque nous voulons nous lever et partir à l'action, partir à la mission, partir à l'amour vers les prochains. Quelque chose qui peut mettre un poison. Mais qu'est-ce que c'est? Des pensées qui s'opposent à l'enseignement que vous avez reçu. Vous allez me dire, mais l'enseignement qu'on a reçu, c'est la Bible, c'est simple. Oui, mais il y a beaucoup de sectes aussi qui ont la Bible. Ah, c'est pas si simple. L'enseignement que vous avez reçu et que vous connaissez a des points essentiels, et je ne vais pas tous les citer. Je ne peux pas les citer dans une matinée. Mais ces derniers dimanches, on parle du Dieu créateur, formidable de l'univers. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a que la création. Pour découvrir qui nous sommes, Dieu nous a donné les 10 commandements. pour nous montrer « Tu peux pas faire le bien avec tes propres forces. Tu n'y arriveras pas. C'est pas pour t'éliminer, c'est juste pour te montrer qui tu es. » Et nous les gardons. Parce que nous sommes devant eux et ils sont en train de nous révéler qui nous sommes. Et nous savons que nous sommes perdus et nous avons qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel pour qu'un salut soit là que le nom de Jésus. Pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen que de reconnaître que nous sommes des êtres perdus, que nous avons besoin d'un sauveur. Et le Saint-Esprit, Dieu lui-même, travaille à nous convaincre pour que nous puissions accepter cet état de fait qui est dans notre existence. Et dans notre sanctification, nous avons à apprendre l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Nous ne pouvons pas dire Seigneur à quelqu'un à qui nous n'obéissons pas. Sinon, le mot Seigneur ne veut rien dire. Si je dis Seigneur, c'est que je me suis soumis et que je suis en train d'écouter pour obéir. Mais alors, quels paraissent être les domaines qui peuvent aujourd'hui nous paralyser, nous donner des malaises quand on veut aller de l'avant avec le Seigneur? Et je vous en nommerai 5. Vous savez que je me déplace beaucoup dans différentes églises de différentes dénominations et que je suis souvent intérieurement très préoccupé, comme vous aussi, de savoir comment atteindre ce monde perdu par le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui peut nous paralyser, les bien-aimés au sein des églises, dans cette mission que Dieu nous a donnée à accomplir? Et ça me préoccupe, parce que je vois ma propre vie avec toutes les batailles, avec toutes mes imperfections, avec mes péchés, avec le besoin continuel de pardon et de grâce de Dieu. Et je vois les différentes églises que je visite. Alors, j'aimerais juste vous donner 5 éléments qui me paraissent aujourd'hui dans notre culture, dans nos entourages, des choses qui peuvent mettre du poison dans notre vie alors que nous voulons suivre le Seigneur. Le premier élément, je dirais, c'est la psychologie anthropocentrée. Je m'explique. De mettre l'être humain et son bien-être au centre de l'existence est certainement un des poisons qui peut pendant toute notre vie nous paralyser. Parce que nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Nous n'avons pas reçu le souffle de Dieu pour nourrir notre égoïsme. Il n'est pas là pour cela. Et dans toute cette vague que nous vivons dans notre monde, sur le plan de la psychologie humaniste, on cherche toujours à nouveau à découvrir quels sont les éléments dans la société et autour de moi qui me rendent la vie difficile et me rendent incapable d'être un homme heureux et stable. Et on va découvrir que mon grand-père avait des problèmes, mon père avait des problèmes. Et dans ma famille, il y a eu des dépressifs. Donc, automatiquement, il y a un problème. Et il y a des problèmes partout. Et avec tous ces problèmes, je devrais trouver en moi des racines pour pouvoir m'excuser que je suis ce que je suis et que je ne peux pas être ce que je veux être. Et je vais trouver sur mon chemin des gens qui vont, en plus, me consoler en me disant « Ouais, quand il faut vivre ta situation, pauvre gars, quoi. Je comprends que tu peux pas avancer. Je comprends que tout te bloque. Quand je vois tes voisins, mais c'est terrible ce que tu vis. Puis quand je vois le salaire que tu as, ah, j'ai vraiment pitié de toi. Franchement, comment pourrais-tu être heureux avec ce que tu as? Et avec tout ce qui te manque, c'est pas possible, tu pourras pas être heureux. » Et déjà, je me fais une situation compliquée et je me crois d'un coup malheureux. Et quelque part, cette pitié de soi va m'enlever toute la force intérieure de ce que le Christ a transformé en moi de l'amour qu'il place en moi, de la force quotidienne qu'il me donne et de l'enthousiasme qu'il me donne pour aller vers les autres. Je vais commencer à me dire, moi je peux pas, d'autres peuvent. Tu sais, parce que les autres, ils sont dans des situations vraiment positives. Hein. Eux, ils peuvent y aller, tu vois. Si j'avais, comme disait André tout avant, si j'avais cette vie-là que je désire, hein, ça serait pas mal. Seulement, quand Dieu me suffit, j'ai pas besoin de vie-là. C'est ça le problème. Il y a quelque part une racine qui voudrait que dans ma société, je commence à me tourner autour de moi-même et que je déclare, comme d'autres, que c'est l'environnement qui est fautif. Ce sont les autres qui sont la faute. Ce sont les autres qui font que moi, je ne peux pas avancer. Ce sont les autres dans l'Église qui me freinent. Ce sont les autres. Non. Je passe au deuxième point. Peut-être le premier, simplement pour souligner, c'est tellement beau de découvrir dans la parole de Dieu, dans la Bible, que toute guérison intérieure de la vie se passe dans l'intimité avec Jésus. Dans le fait de pouvoir lui dire, Seigneur, je suis ce que je suis et je ne sais même pas qui je suis. On me dit que je suis comme ça, d'autres que je suis autrement. On me dit qu'il y a ça, on m'a dit, mais moi je sais que toi, tu sais qui je suis. Et moi, je sais que toi, tu construis ma vie. Et tu la construis au-delà de ce que je peux réfléchir. Ça, je peux vous le dire en témoignage, pas besoin de croire. Après ces quelques années de vie avec le Seigneur, je suis émerveillé des choses que j'ai découvertes en cours de route, que Dieu a changées, sans que j'aie jamais essayé de les changer. Où il a fait une œuvre de profondeur, en creusant dans des racines que je ne connaissais pas, et où il a changé des choses dans ma vie, des regards vers les autres. C'est son œuvre. Ce n'était pas une recherche de ma part, mais c'est son œuvre, parce que c'est lui qui a décidé dans la parole qu'il veut conduire son enfant à la stature de Christ. C'est lui qui l'a décidé. Et c'est tellement bon. Donc rappelons-nous simplement, dès que tu t'occupes des autres, Dieu est en train de transformer ta vie. C'est assez intéressant, ça. Quand je veux m'occuper de moi, les choses se compliquent. Quand j'ai le regard sur les autres pour les aider, Dieu utilise d'autres pour guérir et transformer ma vie. C'est tellement bon de lui appartenir. Mon deuxième point que j'ai déjà touché, c'est cette maladie dans notre société de la recherche de l'épanouissement personnel. Encore dans une église, on m'a dit, oui, mais il faut surtout s'engager pour le Seigneur là où ça fait vraiment plaisir, parce que c'est là où ça fait plaisir que Dieu a mis les dons spirituels. Ouais, c'est formidable, hein? C'est à peu près parallèle avec porter sa croix, non? C'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait ça, hein? Porter sa croix, c'est le rejet. Est-ce que tu as reçu le don du rejet? Tu le trouves cool? Pas moi. Dans le chemin de l'obéissance du disciple, en réalité, l'équilibre et le bien-être personnel est la bénédiction que Dieu fait suivre à l'obéissance du disciple. Rappelle-toi de ça, c'est tellement bon. L'obéissance, souvent, est un chemin difficile. Demande d'aller vers l'autre. Demande d'aller demander pardon. Demande de régler une situation. De reculer devant quelqu'un qui est plus fort, qui veut absolument avoir raison, et de capituler dans son raisonnement en disant « je le laisse gagner ». C'est tellement dur, quelquefois. Mais ce fait est la croissance spirituelle. Le bien-être, c'est Dieu qui te le donne dans cette attitude de dépendance envers lui. Il s'occupe de ton bien-être. C'est tellement bon de savoir. J'arrive au troisième point. J'espère que je ne vous lasse pas. Une des choses qui, quelquefois, me peine dans l'Église aujourd'hui, dans notre bataille de la fin des temps, c'est qu'on a quelquefois cette tendance de penser que tout ce qui est encore difficile et qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est un manque de formation. Il faut se perfectionner. Il te manque encore telle et telle formation, tu vois. J'avais un collaborateur, un stagiaire, qui avait fait 7 années d'instituts bibliques, de différents instituts. C'est déjà pas mal, hein, pour un début, je trouve. 7 années. Et puis, quand on était ensemble, avant qu'il parte, il me demande, « Danny, qu'est-ce que tu penses? Quel sujet il faudrait encore que je travaille mieux, que je perfectionne quelque chose dans l'existence qui va pas? Ou il me faudrait encore des cours? » Et j'ai pas réfléchi longtemps, puisque réfléchir longtemps, ça m'arrive pas très rarement. Et je lui ai dit, tu sais ce que j'ai remarqué? C'est que quand on discute ensemble et que quelqu'un renverse la tasse de café, tu laisses assez de temps aux autres pour chercher la serpillière. Là, il me semble, il y a encore un tout petit progrès à faire. Il ne s'attendait pas tellement à cette réponse-là. Et c'était peut-être pas la plus sage. Mais combien précieux de savoir si les formations devaient toujours nous manquer pour être des disciples du Christ, que serait devenue l'Église au travers de tous les siècles? Si les formations veulent empiéter sur nos vies et trop empiéter, et c'est ça ma crainte, où elles peuvent devenir quelquefois le poison, pas par leur contenu, elles sont la plupart excellentes les formations. Je dis rien de leur contenu, rien de négatif. Mais si ça permet à un père, si ça permet à un mari de ne plus être avec sa femme, si ça permet à un père de ne plus avoir du tout du temps pour les enfants, parce qu'il faut suivre encore X formations, si ça permet la destruction d'une vie familiale, je dis attention, même les choses les meilleures peuvent devenir un poison, ou en fin de compte la simplicité de l'Évangile et l'efficacité du témoignage de vie peut être détruit par des choses excellentes, mais qui deviennent comme un poison qui peut nous empêcher dans la vie spirituelle. Je vais très vite. Ça va? Vous tenez encore? Le quatrième point que je rencontre dans les églises, et que vous connaissez très bien, c'est bien sûr la question de la maladie et de la souffrance. Puisque Dieu veut guérir les maladies, et puis, quelquefois, on nous dit, il suffit de croire, n'est-ce pas? Et puis, la prospérité terrestre, ce bien-être, ça fait partie de la même chose. Et je vois simplement dans mon ministère, dans les églises où je passe, je vois des bien-aimés, des croyants, qui ont fui l'école de Dieu, une école merveilleuse de la sanctification. Ils ont fui l'école en refusant la souffrance. Ils ont fui l'école en refusant la souffrance. Non, je suis pas maso. Non, non. Je cherche pas la souffrance. Mais je sais que ton corps et mon corps, si tu es enfant de Dieu, ton corps appartient à Dieu. Chaque cellule appartient à Dieu. Et il peut guérir ton corps comme ça, sans problème. Et s'il m'a pendant des années laissé malade, c'est qu'il le voulait. Parce qu'il savait qu'une tête de mule comme Daniel avait besoin au moins de passer par pas mal d'années de souffrance pour que j'arrive à le faire réfléchir sainement. Il fallait briser des choses dures qui étaient là. Et Dieu s'en est occupé. Et je le remercie, je le bénis pour cela. Je le remercie parce que je réalise qu'il n'y avait rien d'inutile dans tout cela. Il y avait une formation de vie. Bien sûr, il aurait pu guérir. Pas de problème pour lui. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il guérit en un petit clin d'œil. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, selon Romains 12, versets 1 et 2, tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Il n'est plus à toi. Les cellules ne sont plus à toi. Le corps est à lui. Le corps est à lui. Alors, ne cours pas vers la souffrance, et si la souffrance vient te visiter, cours vers le Seigneur. Si elle te visite, c'est simplement parce que Dieu aimerait encore une fois te dire, tu sais, je suis le suffisant, parle avec moi, parle avec moi. Il te montrera aussi le chemin pour aller vers les médecins, c'est très bien, parce que les médecins ont besoin du témoignage de l'Évangile. Ils doivent rencontrer des malades qui sont reconnaissants d'être ce qu'ils sont. Ils doivent rencontrer des malades qui sont bien avec eux. Ils doivent rencontrer quelqu'un qui leur parle d'un sauveur. Et mon dernier point, dans ces poisons qui peuvent rentrer dans la simplicité de l'Évangile que nous ne voulons pas éviter, c'est une nouvelle forme d'universalisme. Vous savez ce que c'est l'universalisme, hein? C'est cette fausse doctrine qui dit qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Mais je trouve qu'il y a une forme d'universalisme rampant aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore chopé comme ça la queue, mais il est rampant. Parce qu'il n'est plus théologique, il devient de plus en plus sentimental. Un Dieu d'amour peut quand même pas mettre quelqu'un en enfer, quoi. Tu vois, ça va pas bien, quoi. Parce que soit il est amour, tu vois, c'est un peu pénible le truc, hein. C'est chaud comme sujet. Et pourtant, la perdition éternelle est une réalité. L'Écriture en parle sans détour, avec assez de versets, assez de références. La perdition éternelle est tragique. En théologie, on peut insister tellement sur le libre choix que Dieu fait, la prédestination, son appel, tout ça c'est très juste. Mais tout ça, ça ne doit pas nous conduire dans une pensée où notre responsabilité par rapport à l'avance de l'Évangile serait mise de côté. Nous pourrions d'un coup être pris par un poison où nous rentrons dans la pensée de toute façon il les a élus, il connaît, il les trouvera lui-même. Il n'est pas un Dieu perdu, il sait ce qu'il fait. Et d'un coup, toute notre raison d'être encore sur terre, elle est perdue. Parce que s'il nous a sauvés et que nous respirons encore, notre raison d'être, de rester là, c'est d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Notre raison d'être, de rester là, c'est pas d'être sauvé. Il nous a sauvés au moment où nous l'avons reçu, où il est rentré en nous. Mais il veut continuer à ce que nous soyons les témoins de sa grâce dans ce monde et que nous rentrons dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc il y a un universalisme qui pour moi est un universalisme sentimental rampant dans les églises où j'ai l'impression on attend le retour. Et puis pendant qu'on attend, c'est déjà assez difficile comme ça, calmons-nous, hein. Calmons-nous, parce que on est laïque. Enfin, nous, les Français, on est laïque, hein. On est laïquement évangélique. C'est un peu difficile, le truc. Mais enfin, on est, donc calmons un peu le jeu, quoi. Attendons que ça se passe, hein. Et il va revenir, donc c'est bon. Non, non. Notre mission en tant que témoin de Jésus continue. Et c'est seulement dans l'obéissance que tu vis, en fin de compte, les profondes bénédictions dans ta vie spirituelle. C'est dans l'obéissance, au travers de l'obéissance, et tu le sais, que tu vis ces moments qui sont irremplaçables de paix et de joie intérieure. Où c'est comme si le Saint-Esprit mettait de nouveau une nouvelle confirmation sur ton cœur en te rappelant, vas-y, continue, je t'aime, je suis avec toi, je te lâcherai pas, continue, agis pour moi. Je vais raccourcir le message, il y a des points qui vont manquer, mais je vous ai tellement patient, j'aime pas en profiter. Mais je me suis arrêté dans Jean chapitre 4. Vous connaissez tous l'histoire de la Samaritaine, hein? Vous connaissez bien cette histoire. Près du puits, vous voyez exactement où ça se passe, hein? C'est beau, hein? Le Seigneur est là, et puis il demande à boire, et alors, ce texte qui m'a touché, et Jésus lui répondit à la femme samaritaine, Quiconque boit de cette eau-là, de cette eau de la source du sol-là, tu sais, aura encore soif. Cette eau du puits, tu sais, de l'Ancien Testament, là, tu sais, où tout le monde cherchait de l'eau. Ils auront encore soif, là, cette eau-là. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'était hier matin, quand j'étais de bonne heure au bureau, dans ma lecture normale de la Bible. J'entends pas les voix, hein. J'en suis pas là. Mais c'est comme si dans la pensée, le Seigneur me rappelait, Dani, tu crois ça que quand tu m'as, moi, Jésus, tu n'as plus jamais soif? T'es sûr, il te manque vraiment rien? Est-ce que tu peux le croire que quand tu bois ça, quand tu bois ce que moi je te donne, jamais tu n'auras plus soif? Il te faudra pas autre chose pour te désaltérer. Que moi, que Jésus. Ça va te suffire. Et j'ai dû lui dire hier matin, Seigneur, ça devrait être comme ça, c'est vrai. Ça devrait être comme ça, Seigneur. Mais tu connais mon cœur, comment il peut râler, être insatisfait. Mais ça devrait être comme ça, Seigneur. Que toi, près de toi, en te recevant, je n'ai plus jamais soif. C'est extraordinaire quand même. Et j'ai dû le relire plusieurs fois. En Christ, plus jamais soif. J'ai marqué sur le bureau. En Christ, plus jamais soif. Après, je suis allé boire un café, mais quand même, vous me comprenez. En Christ, plus jamais soif. C'est extraordinaire. C'est ça qui va toujours à nouveau nous délivrer des faux poisons qui voudraient rentrer dans nos pensées. Nous avons l'impression qu'il nous faut autre chose. Il nous faut plus que Jésus. Il nous faut plus que l'Évangile. Il nous faut d'autres apports. Alors que le Saint-Esprit, toujours à nouveau, j'allais dire, nous oblige à revenir à Jésus. J'aimerais lui dire, Saint-Esprit, oblige-moi à toujours revenir à Jésus. Ne me laisse pas patiner à côté. Oblige-moi à revenir à Jésus et à chercher en lui la réalité que en lui je n'aurai plus jamais soif. Il est suffisant, il désaltère et il est suffisant pour vivre avec lui. Et Paul termine dans ce roman 16 avec ce que je vous lis simplement encore. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. J'aime vous dire ça. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Et le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour votre attention. Merci.